sommaire de ce journal émeute en Iran, le leader évoque l'erreur de calcul des ennemis. Tournée provinciale du président Raïsi, début des opérations exécutives de la ligne de transfert d'eau du Golfe Persique vers les provinces de Yazd et de Kerman. Et puis l'Iran condamne fermement l'attaque terroriste en Afghanistan. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique iranienne a déclaré que les ennemis avaient fait des erreurs de calcul en préparant des complots pour alimenter les récentes émeutes et créer des perturbations dans le pays. L'ayatollah Seyyed Ali Khamenei a déclaré que les ennemis avaient puisé dans toutes leurs ressources disponibles pour plonger le pays dans le chaos et la tourmente. Il a dit qu'ils ont profité de la question des problèmes économiques qui touchent la vie des Iraniens pour faire vainement aboutir leur complot. Le leader a ajouté, parmi d'autres techniques utilisées par les ennemis pour attiser les troubles, on peut citer faire entrer des équipes et des équipements d'espionnage en Iran, inciter à l'iranophobie dans le monde entier par divers stratagèmes de propagande et les guerres cognitives et hybrides, inciter à la haine et à la division parmi les groupes ethniques, religieux, politiques et même des citoyens ordinaires. Cependant, a noté l'ayatollah Khamenei, ils n'ont pas réussi malgré tous leurs stratagèmes et toutes les machinations, et cela en raison de leurs erreurs de calcul et de la ferme détermination de l'Iran. L'ayatollah Khamenei a fait ses déclarations lors d'une réunion ce jeudi avec un certain nombre de poètes, de panégyristes et de panélistes. Ce jeudi, en présence du président de la République islamique d'Iran, Seyyed Ebrahim Raïsi, les opérations exécutives dans la deuxième ligne d'un immense projet visant à transférer l'eau depuis le Golfe Persique vers les provinces de Yazd au centre et de Kerman au sud-est ont été lancées. Ce projet va dans le cadre de la réalisation, gestion et exploitation des infrastructures de stockage, mais aussi transport d'eau sur de longues distances, suivi et surveillance de l'évolution des ressources en eau et des données liées à l'eau. Ebrahim Raïsi, qui s'est rendu jeudi dans la province de Yazd, dans le cadre de la deuxième série de ses déplacements provinciaux, immédiatement après son arrivée dans la région, s'est présenté sur le site de la mise en œuvre de la deuxième phase de l'immense plan national de transfert d'eau du Golfe Persique vers le Kerman et le Yazd. Sur place, il s'est mis au courant des détails de cet hyper-projet. Le président Raïsi a alors ordonné le lancement de ce grand projet national. En outre, sur ordre d'Ibrahim Raïsi, 16 projets d'eau et d'électricité du ministère de l'Énergie dans la province de Yazd ont été mis en exploitation. La première ligne de ce projet a transféré 130 millions de mètres cubes d'eau dessalée vers les provinces centrales du pays avec 80% d'avancement physique, autrement dit l'état d'avancement de cette tâche. La deuxième ligne de ce projet, qui a été lancée aujourd'hui sur ordre du président, est conçue pour transférer 200 millions de mètres cubes d'eau dessalée du Golfe Persique vers les provinces de Yazd et Kerman le long d'une itinéraire de 730 km. Actuellement, la deuxième ligne de ce grand projet national a progressé de 30% et le délai estimé pour sa réalisation est de 48 mois. Avec la mise en œuvre de ce vaste plan national, il est prévu qu'une partie importante des problèmes d'eau des provinces centrales du pays, en particulier les provinces de Yazd et également Kerman, soit résolue. Nous assisterons ainsi à un approvisionnement en eau durable dans ces provinces. Ebrahim Raïsi s'est déplacé dans la province centrale de Yazd. Ce jeudi matin, au menu de cette visite figure également la rencontre avec la population et démarrage de la construction de 23 600 logements. Le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raïsi, a déclaré que l'Iran était prêt à jouer un rôle actif et constructif pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président Raïsi a fait cette annonce lors d'un appel téléphonique le mercredi avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Le président iranien a déclaré que les problèmes régionaux, y compris les conflits en Syrie et dans le Caucase, ne peuvent être résolus que par la coopération et la coordination entre les acteurs régionaux. Il a ajouté que la République islamique a toujours rejeté toute ingérence étrangère dans la région. S'agissant des relations bilatérales, soulignant l'importance du développement continu de la coopération économique entre l'Iran et la Russie, en particulier dans le domaine du transit de l'énergie, le président Raïssi a considéré que ces coopérations institutionnalisent des relations bénéfiques pour les nations des deux parties, ainsi que pour les pays de la région. En ce qui concerne les efforts pour résoudre les problèmes syriens, l'ayatollah Raïssi a souligné le caractère central du cadre d'Astana et a annoncé que l'Iran était prêt à jouer un rôle actif et constructif pour mettre fin au conflit et établir la paix en Ukraine. Le président Poutine a pour sa part salué l'initiative de l'Iran d'établir la paix en Ukraine et a mis l'accent sur la coordination pour résoudre les problèmes de la Syrie dans le cadre d'Astana. Il a souligné que les problèmes en Syrie devaient être réglés par le biais des pourparlers d'Astana. Il faisait référence à un format de paix mis en place en janvier 2017 par l'Iran, la Russie et la Turquie pour trouver une solution au conflit syrien. L'Iran condamne fermement l'attaque terroriste en Afghanistan. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a condamné dans les termes les plus forts l'attaque terroriste devant le bâtiment du ministère afghan des Affaires étrangères. Kanani a exprimé mercredi sa sympathie aux familles des victimes de l'attaque en Afghanistan, demandant à Dieu Tout-Puissant d'accorder un prompt rétablissement aux blessés de l'incident terroriste. Une explosion s'est produite mercredi devant le bâtiment du ministère afghan des Affaires étrangères à Kaboul, tuant 3 personnes et en blessant 2 autres, selon les médias locaux. Jusqu'à présent, aucune déclaration officielle n'a été publiée par les talibans concernant cette attaque. L'Iran condamne vivement les mauvais traitements infligés à l'un de ses ressortissants par un tribunal suédois. Le ministère iranien des Affaires étrangères a également rappelé au gouvernement suédois la nécessité de respecter les droits humains juridiques et consulaires du citoyen iranien qui croupissent sous les geôles suédois. La déclaration du ministère fait référence au sort de Hamid Nouri, un ressortissant iranien emprisonné en Suède pour des violations présumées des droits humains. Il a été arrêté en 2019 sur des accusations portées contre lui par un groupuscule terroriste anti-Iran qui se nomme l'organisation des Moudjahidine Khalr, OMK. Hamid Nouri, qui a assisté à son audience devant la cour d'appel mercredi, a qualifié son procès d'inéquitable. Il a exhorté le juge à ne pas tenir de procès fictif, affirmant qu'il n'assisterait pas à d'autres audiences tant que ses problèmes n'auraient pas été résolus. En réaction, le juge a ordonné que son microphone soit éteint. Sa famille a déclaré à la chaîne anglophone iranienne Press TV que Nouri avait été humilié, battu et privé d'accès aux services médicaux pendant sa détention et sa période d'essai. Enfin, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIEA, Mohammad Eslami, a déclaré mercredi que l'Iran était devenu autosuffisant pour fournir les articles dont il avait besoin. À l'occasion de l'anniversaire de la mort en martyr des scientifiques nucléaires iraniens, Mohammad Eslami a déclaré que les martyrs nucléaires de l'Iran étaient des jeunes qui ont passionnément utilisé toutes leurs capacités intellectuelles, exécutives et managériales pour accroître le progrès national. Les martyrs nucléaires ont fait de leur mieux pour apporter de la maturité à l'industrie nucléaire nationale, a-t-il déclaré, ajoutant que la réalisation la plus importante des efforts des savants martyrs nucléaires était qu'il avait apporté à la République islamique d'Iran une capacité d'autosuffisance que l'Occident ne peut pas détruire ou l'éliminer. Soulignant les réalisations importantes de l'OIEA, il a souligné qu'ils ont dû contourner les sanctions pour fournir les articles nécessaires au pays. Mais maintenant, le pays est autosuffisant et il est capable de répondre aux besoins même d'autres pays. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a enregistré de bonnes réalisations sur plan de l'utilisation de l'énergie nucléaire, de production d'électricité et d'autres services civils liés à cette énergie, s'est-il félicité. Se référant au succès de la production de radiopharmaceutiques dans le domaine de la santé, M. Eslami a souligné que les médicaments produits et fournis par l'Organisation de l'énergie atomique de la République islamique d'Iran sont désormais disponibles pour 1 million de patients et qu'environ 206 centres de médecine nucléaire dans le pays en profitent. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Les groupes des droits de l'homme appellent à la fermeture du camp de Guantanamo. L'affaire Guantanamo refait surface. Des groupes de défense des droits de l'homme renouvellent leurs appels à la fermeture de la tristement célèbre prison. Près de 160 groupes de défense des droits internationaux ont appelé les États-Unis à fermer leur centre de détention à Guantanamo Bay, à Cuba. Les groupes de défense des droits de l'homme, dont Oxfam America, et le Conseil des relations américano-islamiques ont lancé ce plaidoyer dans une lettre adressée mercredi 11 janvier au président américain Joe Biden à l'occasion du 21e anniversaire de l'ouverture de la tristement célèbre prison militaire. La prison de Guantanamo continue de causer des dommages croissants et profonds aux hommes vieillissants et à de plus en plus malades qui sont toujours détenus indéfiniment, la plupart sans inculpation et aucun n'ayant bénéficié d'un procès équitable. Cela a également dévasté leur famille et leur communauté, ont-ils déclaré. Ils ont en outre affirmé que le centre de détention controversé alimentait le sectarisme, les stéréotypes et la stigmatisation, ajoutant qu'en illustrant ces divisions sociales, Guantanamo risquait de faciliter des violations supplémentaires des droits de l'homme. L'American Civil Liberty Union a également décrit la prison à Cuba comme un symbole mondial d'injustice, d'abus et de mépris de l'état de droit. Guantanamo continue d'imposer des coûts énormes à la fois à nos valeurs et à nos ressources. Il est grand temps que cet épisode honteux de l'histoire américaine se termine, a déclaré le groupe de défense des droits à but non lucratif. Le 11 janvier marque le 21e anniversaire de l'ouverture de Guantanamo, communément appelé Gitmo. La prison fonctionne toujours comme un vestige de la guerre contre le terrorisme américaine qui a commencé après les attentats du 11 septembre 2001, malgré les promesses faites par la Maison-Blanche de fermer la geôle. Le camp de Guantanamo est devenu synonyme d'abus de prisonniers par les États-Unis dans les premières années de la soi-disant guerre contre le terrorisme, gagnant une notoriété mondiale pour l'utilisation généralisée de la torture et d'autres méthodes de violation des droits de l'homme qui ont été effectuées. De nombreux détenus ont été soumis à des services psychologiques et physiques, y compris le simulacre de noyade, les coups, l'exposition à des bruits assourdissants et la privation de sommeil et de nourriture dans le cadre de leur interrogatoire renforcé, dont les récits ont été progressivement fuités à l'extérieur de la prison par quelques avocats qui ont visité la prison ainsi que les détenus qui ont depuis été libérés. Il ne reste que 35 prisonniers dans la maison de détention contre près de 680 qu'il détenait à son apogée en 2003. La plupart y languissent sans inculpation et les procédures pour leur libération ont été retardées pendant des années dans l'état provisoire. Il convient de rappeler que les promesses de Washington de fermer la prison remontent au premier mandat de l'ancien président Barack Obama, qui avait fait de la fermeture de Guantanamo l'une de ses principales priorités. Pour ce faire, il a publié un décret exécutif dès après son arrivée au pouvoir en 2010, mais en vain. En raison d'une vive protestation du Congrès, il n'a pas réussi à atteindre cet objectif, même à la fin de son deuxième mandat, jusqu'à ce que son successeur, Donald Trump, ait annulé l'ordre.